Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. La colère grandit en Iran après la mort de Mahsa Amini. Les manifestations se poursuivent dans le pays après le décès de cette femme de 22 ans vendredi dernier suite à son arrestation par la police des mœurs. Combattre le fléau de l'inceste, le gouvernement français a annoncé des mesures pour lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants. Des mesures inspirées par la commission indépendante sur l'inceste qui vient de livrer son rapport. Son coprésident, le juge Édouard Durand, sera l'un de nos invités. Les représentants des États-Unis, de la France et de l'Arabie Saoudite exhortent les autorités libanaises à mettre en œuvre les réformes exigées par le Fonds monétaire international et à organiser l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels. Un appel en marge de la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Les faits remontent à juin dernier. Le ministre espagnol de l'Intérieur affirme que la police espagnole a fait un usage proportionné de la force lors de la tentative de près de 2000 migrants de pénétrer dans l'enclave espagnole de Melilla. Santé, les inégalités sociales tuent, le thème de « Et si on en parlait » à 19h et 23h, parmi les invités d'Alexis Bachelet, le médecin urgentiste Gérald de Kierzek, qui revient notamment sur la mise en lumière des inégalités lors de la crise sanitaire liée au Covid-19, extrait dans cette édition. Le mondial féminin de basket, l'équipe de France a bien entamé la compétition et a battu l'Australie à domicile 70 à 57. La colère reste vive et s'intensifie même en Iran après la mort de Mahsa Amini vendredi dernier. Cette jeune femme décédée après avoir été arrêtée par la police des mœurs à Téhéran. Des manifestations ont encore éclaté dans de nombreuses villes du pays, des manifestations réprimées par la police. Le bilan officiel fait état de 17 morts. Une ONG parle de 31 personnes tuées. La contestation s'est aussi étendue aux universités comme à Al-Zahra et à Téhéran. La commission indépendante sur l'inceste a livré un rapport sur les conséquences traumatiques de l'inceste. Cela suite aux plus de 16 400 témoignages qu'elle a recueillis en un an. Le gouvernement a annoncé plusieurs mesures, comme le dépôt au Parlement d'une modification législative permettant le retrait de principe de l'exercice de l'autorité parentale en cas de condamnation d'un parent pour violence sexuelle incestueuse sur son enfant. Cette commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants veut porter la voix des victimes de violences sexuelles dans l'enfance qui lui ont confié leur traumatisme. Entretien avec son coprésident, le juge Édouard Durand.
Lorsque nous avons lancé l'appel à témoignages, nous savions que ce serait le cœur de notre mission, créer cet espace de solidarité entre les personnes victimes de violences sexuelles dans l'enfance. Nous savions aussi que nous répondrions à un besoin silencieux dans la société, mais un besoin très vif et très exigeant. Et 16 414 témoignages dit bien à quel point cette vague était souterraine et à quel point elle devait émerger, à quel point enfin la société devait prendre conscience de cette réalité terrible qu'elle a trop longtemps minimisée ou cachée. Donc c'est quelque chose de très important que ce mouvement de toutes ces femmes et ces hommes victimes de violences sexuelles dans l'enfance et notamment d'inceste, qui viennent à la Civise pour trouver reconnaissance et changer la société.
Et comment repérer ou mieux repérer les victimes aujourd'hui?
C'est fondamental, le repérage des enfants victimes de violences sexuelles. D'abord parce que chaque année en France, il y a 160 000 enfants victimes de viols ou d'agressions sexuelles, notamment dans la famille. L'urgence, c'est d'aller les chercher pour les mettre en sécurité. Ensuite, parce que l'agresseur, toujours, pour assurer son impunité, impose le silence à l'enfant, crée un secret qui contamine et qui piège l'enfant. C'est donc l'attitude protectrice des adultes et tout particulièrement des professionnels qui travaillent avec les enfants par le questionnement systématique qui va permettre à l'enfant de se sentir en confiance et de révéler les violences qu'il subit. Est-ce que quelqu'un t'a déjà fait du mal ? Raconte-moi comment ça se passe à la maison. La loi interdit la violence. À ce moment-là, l'enfant sait qu'il peut faire confiance. Il sait qu'il est en présence d'un adulte qui sera en capacité d'encaisser le stress de la révélation des violences et d'enclencher la protection.
Vous faites état de plus de 16 400 témoignages reçus en un an, mais une personne sur 10, un enfant sur 10 aujourd'hui en France a été victime de violences sexuelles ?
Oui, la commission Sauvé sur les violences sexuelles dans l'Église de France avait montré par son enquête en population générale que dans la population adulte, 5,5 millions de femmes et d'hommes ont été victimes de violences sexuelles. C'est un chiffre extrêmement important, bien sûr, et qui montre donc une personne sur 10 est victime de violences sexuelles autour de vous, autour de moi, autour de nous, autour de tout le monde, dans la famille, dans la maison, au travail, dans l'entourage amical, dans la rue. Nous croisons des personnes, nos semblables, qui ont été victimes de violences sexuelles.
Existe-t-il des victimes qui s'ignorent, des personnes qui n'ont pas de souvenir de leur agression ?
C'est ce qu'on appelle l'amnésie traumatique, qui est un mécanisme de défense du cerveau humain pour se préserver de la mémoire traumatique et de la souffrance extrême générée par le passage à l'acte de l'agresseur. Et nous avons rencontré beaucoup de personnes adultes qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance et qui nous ont parlé de l'amnésie traumatique et d'un épisode de leur existence qui les a conduits à sortir de l'amnésie traumatique.
Alors comment la réparation judiciaire peut s'effectuer lorsque le bourreau est décédé, notamment pour ces cas de troubles du stress post-traumatique qui interviennent parfois longtemps après le crime ?
La première urgence, c'est de consolider les enquêtes pénales et toute la procédure pénale pour pouvoir lutter contre l'impunité des agresseurs et pour pouvoir assurer la protection et la réparation des victimes. C'est absolument fondamental. Notre système progresse, mais il est encore trop fragile et il faut le consolider. Il y a des cas, notamment lorsque les faits sont prescrits ou que l'agresseur est mort ou la victime ne peut trouver dans l'espace judiciaire une réparation et une reconnaissance. Nous devons réfléchir aux moyens de permettre cette reconnaissance et cette réparation. Cette réparation est importante à plusieurs titres parce que les personnes nous disent « mais l'institution, la société n'ont pas reconnu ce que moi j'ai subi ». Et puis parce que les conséquences traumatiques, physiques, psychiques des violences sexuelles sont très durables, parfois tout au long de la vie, et qu'il existe des soins, mais des soins qui sont coûteux, la réparation s'impose. Ça n'est que justice. Il faut rendre justice aux enfants violés et agressés sexuellement.
La réponse du gouvernement face à cette situation vous semble-t-elle pertinente et suffisante ?
Écoutez, le 31 mars 2022, nous avons publié 20 préconisations réalistes, réalisables, qui doivent aujourd'hui devenir des réalités. Et je suis heureux que la secrétaire d'État à l'enfance, Charlotte Caubel, ait annoncé que le gouvernement allait mettre en œuvre un certain nombre des préconisations que nous avons formulées dans le registre du repérage, la création de la cellule de soutien aux professionnels, le retrait de l'autorité parentale en cas d'inceste, le parcours de soins pour les victimes, une grande campagne publique de sensibilisation aux violences sexuelles faites aux enfants. Ce sont des avancées importantes et la CIVIL sera vigilante à leur mise en œuvre. Et puis, nous continuerons à demander que les autres préconisations que nous avons faites déjà soient mises en œuvre elles aussi. Enfin, nous continuerons à écouter la parole des victimes et nous continuerons à faire des préconisations de politique publique pour mieux protéger les enfants parce que la protection des enfants n'attend pas.
Vous le dites, les travaux de votre commission se poursuivent. L'Assemblée nationale a récemment créé une délégation aux droits des enfants, délégation chargée de nourrir le travail législatif sur des sujets qui vont de l'aide sociale à l'enfance aux violences intrafamiliales. Comment avez-vous accueilli cette initiative ?
C'est une très bonne chose parce que il faut une politique publique de la protection de l'enfance, de la lutte contre ce que j'appelle les violences de l'intime, les violences de la maison. Et cette délégation y contribuera. De même qu'il y a une secrétaire d'État à l'enfance, il est bon qu'il y ait à l'Assemblée nationale et au Sénat une délégation parlementaire à l'enfance. C'est très important, oui. C'est une préoccupation majeure. La façon dont nous protégeons nos enfants dit quelque chose de la façon dont nous nous pensons comme société.
Et vous entendez travailler avec cette délégation ?
Oui, bien sûr. La CIVIL est une instance publique et dès lors que des parlementaires la solliciteront pour des auditions, pour rendre compte de ses travaux, pour proposer des préconisations de politique publique. Nous le ferons, c'est notre devoir.
Vous avez mentionné parmi les mesures annoncées par le gouvernement le retrait de l'autorité parentale. Ça, c'est un élément très important.
C'est absolument fondamental. Et je vais vous dire pourquoi. Il est profondément inacceptable et même immoral que le parent qui a violé son enfant soit celui qui autorise ou interdise que son enfant soit soigné. L'autorité parentale a pour finalité la protection de l'enfant. Et on ne transgresse pas la loi impunément. Un parent qui manque à ce point à ses devoirs qu'il prend son enfant pour un objet sexuel ne peut pas avoir l'autorité parentale. Retirer systématiquement l'autorité parentale à un parent déclaré coupable d'inceste n'est contraire à aucun principe. Au contraire, la raison commande que ce retrait soit systématique.
Et c'est un sujet qui a longtemps été ignoré. Vous avez le sentiment aujourd'hui que ce sujet est mis en lumière?
La fenêtre s'est ouverte. Elle s'est ouverte grâce à l'opiniâtreté des associations, grâce à la littérature, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux politiques publiques successives, grâce à la commission Sauvé dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis grâce à la création de la CIVIS par le secrétaire d'État Adrien Taquet il y a un an et demi maintenant. Il faut faire attention que cette fenêtre ne se referme pas. Parce qu'au moment même où on dit aux personnes victimes « vous pouvez témoigner, on vous croit », nombreux sont ceux qui disent « nous ne voulons pas entendre parler de viol et d'agression sexuelle, nous ne voulons pas entendre parler d'inceste ». Il faut donc rester vigilant, tenace, opiniâtre, car c'est une nécessité publique de lutter contre l'impunité des agresseurs. Ce qui coûte à la société, c'est l'impunité des agresseurs.
Le juge Édouard Durand, coprésident de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, il est notamment l'auteur de « Défendre les enfants, la mission d'un juge » aux éditions du Seuil. Washington fait part de sa détermination à soutenir la Tunisie, cela par la voix de la sous-secrétaire d'État américaine pour les affaires du Proche-Orient. C'est ce qui ressort d'un communiqué rendu public par la diplomatie tunisienne. La responsable américaine s'est entretenue avec le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger. Un entretien à l'occasion de la semaine des pourparlers de haut niveau de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. La situation au Liban a été évoquée lors de cette 77e Assemblée générale. Des représentants des États-Unis, de la France et de l'Arabie Saoudite ont exhorté les autorités du pays à mettre en œuvre les réformes exigées par le Fonds monétaire international et à organiser l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels. Une déclaration commune publiée en marge de l'Assemblée générale à New York, nos trois pays expriment leur soutien continu à la souveraineté, la sécurité et la stabilité du Liban, des mots de ces trois représentants. La date limite constitutionnelle à laquelle le Parlement doit élire le prochain président du Liban est le 31 octobre, date à laquelle le mandat de l'actuel chef de l'État, Michel Aoun, prend fin. Les faits remontent à fin juin dernier. Le ministre espagnol de l'Intérieur affirme que la police espagnole a fait un usage proportionné de la force lors de la tentative de près de 2000 migrants de pénétrer dans l'enclave espagnole de Melilla. Au moins 23 candidats à l'exil avaient perdu la vie. Appelés à donner des explications sur ce drame depuis des mois par plusieurs groupes parlementaires, le ministre s'est exprimé pour la première fois devant les députés sur ce sujet. Ce drame de Melilla avait déclenché l'indignation internationale. L'ONU, comme l'Union africaine, avait dénoncé un usage excessif de la force. Santé, les inégalités sociales tuent. Le thème de « Et si on en parlait ?» à 19h et 23h. Parmi les invité d'Alexis Bachelet, le médecin urgentiste Gérald Kierzek. Il revient notamment sur la mise en lumière des inégalités lors de la crise sanitaire liée au Covid-19.
Les inégalités, elles ont frappé durement les plus modestes dans le confinement, parce que c'est pas pareil de vivre son confinement enfermé. D'ailleurs, on risque plus de se contaminer quand vous êtes enfermé à plusieurs dans un appartement que quand vous êtes dans une maison en bord de mer. Donc l'inégalité sociale, elle frappait pendant le confinement, elle frappait, vous venez de le dire, parce qu'il y avait plus de comorbidité. Mais pourquoi il y avait plus de comorbidité? Pourquoi il y avait plus de surpoids? Pourquoi il y avait plus de maladies cardiovasculaires? Bah, parce que c'est des gens qui étaient un peu exclus du système de santé en amont. Et donc du coup, quand il y a eu cette épidémie, ils ont été frappés plus durement aussi. Mais sur la crise Covid, à force de dire c'est le Covid, c'est ce virus terrible, etc., ce virus, c'est un virus qui frappait les gens les plus fragiles. Donc on aurait dû protéger les plus fragiles, mais surtout, il faut qu'on en tire les conséquences. Mmh. Et moi, il y a deux conséquences qui me semblent à tirer. Et malheureusement, en disant tout vient du Covid et donc c'est une exception, en fait, on ferme les yeux sur ces deux vraies causes des morts du Covid. La première cause, c'est le déficit structurel du système hospitalier, c'est le fait d'avoir fermé des services d'urgence, fermé des lits hospitaliers, fermé des réanimations. Donc on a un système qui est en permanence en flux tendu, qui est extrêmement mal géré et qui fait que la moindre goutte d'eau va faire déborder le vase. Alors le Covid a été une grosse goutte d'eau, mais le Covid n'a fait que révéler des problèmes que nous, urgentistes, et que tous les patients ou tous les collègues connaissent depuis des années, depuis 15 ans, l'hôpital se casse.
Et que vous alertiez depuis déjà longtemps.
Mais regardez 2019, la grève des urgentistes, en disant on veut un rehaussement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, c'est-à-dire le budget qui est voté par le Parlement, et on répondait « Ah ben non, 3 milliards, on n'a pas d'argent ». Regardez combien a coûté le Covid, ça a coûté plus de 600 milliards. La deuxième cause du Covid, il faut pas se cacher derrière son petit doigt, c'est le déficit de prévention. Parce que c'est une maladie, on voit bien les malades en réanimation, 1 sur 2 étaient obèses. Donc il faut protéger ces patients obèses, ça paraît une évidence, mais surtout il faut lutter contre l'obésité.
Le médecin urgentiste Gérald Kierzek, il est l'un des invités de « Et si on en parlait ?» à 19h et 23h, émission présentée par Alexis Bachelet. Le mondial féminin de basket, l'équipe de France a bien entamé la compétition avec une victoire face à l'Australie, victoire 70-57. Les joueuses de Jean-Aimé Toupane se placent ainsi déjà pour la qualification pour les quarts de finale, une qualification qui pourrait être quasiment assurée en cas de nouveau succès vendredi face au Canada. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. Un très grand merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.